Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouz et compagnie. Et nous avons encore la suite des histoires du père Liénard. Salut Liénard!
Salut BZ, salut tout le monde!
Alors, pour vous rappeler vite fait, quand même, dans l'épisode précédent, le père Liénard nous avait raconté comment ces bipèdes velus étaient devenus, entre guillemets, un grand empire qu'est le Dominion. Et il nous avait laissé sur un magnifique cliffhanger, et je vais laisser la parole à Liénard pour rappeler un peu la situation et nous dire ce qu'il va nous raconter dans cet épisode.
Dans le dernier épisode, donc, on s'était terminé sur le fait que Azlia, dieu incontesté du Dominion et de facto maître de l'humanité, avait décidé de partir conquérir les terres du Nord, le fameux Mannheim, sur un coup de tête, apparemment. Donc il s'est levé un matin, il a dit à ses légions, on y va, on fonce. Dans cet épisode-là, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le Nord, justement. Et quelles vont être les conséquences générales de l'envoi des troupes du Dominion vers Mannheim. Et comme c'est un chapitre plutôt court, je conclurai en vous dévoilant un petit peu de la vérité derrière le mythe, qui n'est pas dans les écrits, disons, officiels qui figurent dans le Compagnon. Eh ben, si tu permets, c'est en
Eh ben, allons-y, hein. Go. Ouais. Je veux savoir.
Alors,
et je pense que les autres aussi.
Tout à fait. Eh bien, déjà, les terres du Nord, donc le continent nordique qu'on appelle actuellement Mannheim, ne s'est pas toujours appelé comme ça. Au début, les humains l'appelaient Alvarheim. Alors, c'est un nom plutôt oublié, à vrai dire, hein, vu que les Nordiques n'ont pas de chronique, mais qui signifiait terre des Aesir et des Vanir, qui étaient les dieux qui régnaient sur Mannheim à cette époque-là. On sait très peu de choses sur l'antiquité de Mannheim. Comme j'ai dit, c'est bon, les Nordiques ne conservent pas beaucoup d'écrits. Ils ont bien quelques runes, mais déjà qu'ils écrivent beaucoup sur du bois qui se périme avec le temps. Et en plus de ça, il y a beaucoup de guerres incessantes, le climat est très difficile. Et simplement, à cette époque-là, les humains n'étaient pas encore très civilisés dans cette région et pas vraiment capables de tenir des chroniques écrites comme on en avait, par exemple, dans le Dominion.
Ouais, parce que, enfin, excuse-moi, mais les tribus nordiques, enfin, actuellement, c'est l'équivalent des tribus avant l'éveil d'Azlia,
ou à peu près,
sont
oui.
Un peu plus
ok. Un petit peu plus, parce qu'il y a quand même quelques siècles qui ont passé, ouais. Les humains ont pu évoluer un petit peu aussi, mais c'est quand même pas fou, hein. Alors, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que les dieux nordiques, les fameux Aesir et Vanir, s'occupaient quand même de ces humains. Parce que ne serait-ce que parce que les humains étaient menacés par les Jotnars, ces horribles géants des glaces, qui n'aimaient visiblement rien tant que casser des bouches et manger des hommes. Donc les dieux nordiques s'occupaient un peu de leurs troupes, de leurs tribus, de leurs ouailles, et envoyaient d'ailleurs leurs fameuses valkyries chercher les corps des valeureux guerriers morts au combat pour les ramener au Valhalla et leur offrir un repos festif éternel. Dans ces conditions-là, les tribus nordiques étaient globalement orientées vers la guerre. Elles savaient faire des armes, elles savaient faire des bateaux relativement légers, elles savaient faire de la pêche. Et c'est à peu près tout. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, la tradition était majoritairement orale, peu de runes. Et de toute façon, Mannheim, c'est tellement la merde en termes de pays que c'est pas comme s'ils avaient pu développer beaucoup d'autres choses. Ouais, parce que je vais faire un petit aparté sur Mannheim, hein, mais dites-vous vraiment que c'est l'Antarctique le truc. Hein. C'est pas la banquise gentillette ou les fjords gentillettes suédois et Norvège. Hein. Non. Hein. Là, c'est plutôt la Sibérie, mais la Sibérie avec des loups-garous à l'intérieur. Ceci étant précisé, Donc, une société plutôt militariste qui ne faisait pas grand-chose à part s'entrepiller, lancer des raids sur les côtes du reste du continent, essayer de survivre au jour le jour, et c'est à peu près tout. Et la seule forme d'éducation morale, disons, qu'ils avaient, c'était les sagas, qui sont des
C'est plus
traditions
fort que
orales, hein.
toi.
Saga, c'est plus fort que toi. Surtout quand Saga, il fait 2,50 m et qu'il a été génétiquement modifié, mais nous y reviendrons
Et
plus
quand
tard.
même. Ah oui, belle bête.
Oula, t'en as pas vu la fin. Alors, donc cette tradition orale-là, globalement, elle raconte ce qui se passe, c'est toujours très imagé, très mythologique. Et si c'est vrai qu'à l'époque où se déroule Conquest, les Nordiques se sont un peu plus mis à l'écriture, puis des aventuriers, des érudits ont pu un petit peu les mettre sur papier, ces sagas. Bah, à l'époque, c'est pas le cas, hein. Ça dépend vraiment de la fiabilité du mec qui te la raconte. Mais bon, on va faire comme si c'était des sagas fiables, et on va voir ce qu'elles disent. Donc, d'après les sagas, les Aesir et les Vanir étaient des dieux. Ils s'étaient divisés à cause de problèmes internes, typiquement divins, et ils s'étaient unis lors d'une attaque des dragons. Et ils avaient donc réussi apparemment à repousser cette attaque, ainsi que des géants, et à s'installer à Yggdrasil, le siège de leur puissance, qui était connecté du ciel jusqu'à la terre. Incroyable. Ces Aesir et ces Vanir étaient dirigés par un dieu qui s'appelait Odin, et qui était attendu de mourir à Ragnarok. Et en préparation de cette bataille finale épique et mythique, il rassemblait tous les hommes les plus courageux, les plus vigoureux, habiles et inventifs des tribus nordiques, et il les prenait pour les amener à Valhalla, juste au moment de leur mort, afin de les préparer contre la grande menace, le géant des flammes Surtr, et ses enfants encagés d'acier et ses serviteurs maléfiques.
Ouais, ils sont quand même très inspirés de la mythologie nordique
Voilà, tout à fait.
réelle.
Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait le cas. On va être très clair. Tu dis ça à un érudit des 100 royaumes ou à un érudit des cités-états, il te regarde, il se fout de ta gueule. C'est dit.
Oh.
Parce que les érudits, depuis le temps qu'ils ramassent des sagas des Nordiques, faut dire que depuis que les Nordiques se sont installés dans le nord des 100 royaumes, l'accès y est plus facile.
Certes.
Ils sont pas naïfs du tout. En tout cas, ils ont de très très gros soupçons sur ce qu'étaient vraiment les Aesir et les Vanir. Non, parce qu'il y a quand même des dates qui correspondent bien, des choses qui ne sont pas laissées au hasard. Et les quelques Dwegom ou princes marchands d'Espire qui communiquent avec des humains, eux, ils ont tout de suite vu de quoi il s'agissait.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que ces fameux Aesir et ces fameux Vanir, c'était des exilés. Des spires et des tisseurs.
Ce que j'ai été demandé de quelle écharde ils venaient, justement, si c'était des dieux.
Eh ben, c'était pas des dieux, c'était des elfes.
Ah, les oreilles pointues encore. Ok.
Et Yggdrasil, bah, à l'heure actuelle, elle existe encore, Yggdrasil, hein, elle est encore debout. C'est une spire. La plus grande des spires. Bah, la plus grande connue, du coup.
Oui, ça, t'en avais parlé dans un précédent épisode.
Voilà. Et en fait, la fameuse guerre civile qu'ils ont eu entre eux, bah, c'est la division entre les spires et les Weavers pendant la guerre de dragons. Voilà. Sauf que dans cette spire-là, eh ben, ils sont arrivés à un accord. Les deux factions sont arrivées à un accord. Et ils sont donc restés en bons termes ensemble. Et ils ont battu les dragons qui les attaquaient, même les dragons anciens. Et ils se sont plus ou moins séparés du reste des spires et des tisseurs. Donc, voilà, ça c'est un peu la triste vérité. Donc là, on pourrait se demander quand même, ok, mais concrètement, tous ces noms de dieux là, Odin, Thor, Freya, c'est qui? Ben, c'était les Spires. Complètement, c'était les chefs des factions des Spires. Odin était le maître d'Aspyr, le plus noble des nobles qui se trouvait là. Celui qui est un peu plus mystérieux, c'est un certain Loki. Déjà parce que son appellation, c'est le père des monstres. Ça commence bien.
Ouais.
Que, en plus de ça, il est considéré dans les sagas nordiques comme une figure mystérieuse et très sombre. Même maléfique parfois. Et en plus de ça, il est considéré comme étant le créateur, pas le père des monstres, hein, le créateur des pires abominations, hein, Fenris, Jormungand, ce genre de créatures. Donc, quand on met les choses sous cette perspective-là, la promesse de Valhalla, sous Yggdrasil, et la création des Énériars, donc les fameux guerriers, les guerriers bénis des dieux, d'un coup, c'est un peu plus sombre comme destin. Parce que la réalité, c'est que le Valhalla n'était pas un paradis. Le Valhalla était un laboratoire. Un laboratoire d'expérience, dans lequel il récupérait les corps des humains les plus vigoureux et les plus forts, et il tentait de les muter en quelque chose de plus puissant. Voilà, c'était un projet d'amélioration biomantique.
Ah là là, toute cette perversion de la mythologie, c'est beau.
C'est ça. Et en plus de ça, déjà c'était vachement dangereux comme procédure. Et en plus de ça, ça donnait à ces nouveaux guerriers des capacités largement au-delà de ce que n'importe quel humain pouvait espérer. Hein. Outre une force surhumaine, une grande endurance et une capacité d'adaptation assez incroyable, chaque Erenyar avait des mutations spéciales qui semblaient être liées. Ils ne savent pas trop. Est-ce que c'est son subconscient, son esprit, ou est-ce que c'est son code génétique? En tout cas, certains avaient des capacités pour se transformer en monstres, par exemple. Ou pour invoquer, par exemple, des lames d'os qui leur sortaient des bras, et jamais être désarmés, ce genre de choses. En tout cas, ce que les dieux, entre guillemets, ont pu conclure, c'est que leurs expériences ne fonctionnaient que sur les guerriers les plus braves, les plus féroces, ceux qui avaient vraiment la rage de vivre. D'où le fait qu'ils envoyaient des Valkyries, en fait des serviteurs à eux, pour récupérer les corps, ou les mourants. Ou simplement les grands guerriers qui commençaient à arriver à un âge où combattre n'était plus très sûr pour eux. Et on leur disait, écoute, viens te reposer, quoi.
Et les Valkyries du fleuve, c'est les mêmes Valkyries qu'il y a dans le jeu ou
C'est
c'est...
une très bonne question.
D'accord.
C'est une très bonne question. On n'a pas de certitude à ce niveau-là. Il y a des éléments qui laissent à penser que oui. Il y a des éléments qui laissent à penser que non.
Bon, ce sera dans un prochain épisode.
C'est un peu ça. Et d'ailleurs, je t'avoue que même moi, je n'ai pas vraiment la réponse. Hein.
Pas dire ça.
On peut pas vraiment dire ça, effectivement. Mais je la chercherai, t'inquiète pas. De toute façon, on finit toujours par trouver.
Bon,
Mais
reprenons notre Valhalla.
par contre, selon toute probabilité, non, c'est pas la même.
D'accord.
Les Valkyries qu'on voit dans le fleuve sont apparemment un culte qui est arrivé beaucoup plus tard.
Tard. Ouais, c'est l'appellation traditionnelle plutôt que enfin, les Valkyries de l'époque, quoi.
Ah, je te dirais plutôt que c'était un. Elles ont récupéré la trademark, plutôt.
D'accord.
Mais toujours est-il que c'était sans doute plutôt des serviteurs comme des clones, des drones, ou simplement des tisseurs de rang inférieur ou des spires de rang inférieur qui allaient les récupérer.
D'accord, ok.
Toujours est-il que on se retrouve donc avec ces fameux Erenyar au fin fond du Valhalla. Et pour le coup, les sagas disent vrai, leur rôle était de se battre au Ragnarok et d'y mourir. Apparemment, c'était Odin lui-même qui aurait vu ça dans le puits de la sagesse, un puits magique qui lui permettait de voir l'avenir. Il aurait vu une catastrophe qui allait consumer les dieux, et il s'est donc chargé de créer une armée capable de le défendre. Bon, ça soulève quand même quelques questions, genre déjà comment est-ce qu'ils pouvaient connaître leur futur? C'est quoi le puits de la sagesse? Alors, on n'a jamais vu un artefact magique capable de faire ça. Comment c'est qui ce Surtr? Et pourquoi est-ce qu'il amènerait la fin de tout? On y retourne, mais pourquoi croire même un artefact magique au point de créer une société autour de ça, quoi? Ça paraît quand même osé, surtout pour un exilé. On sait à quel point les exilés ont tendance à être retors et intelligents et à prévoir sur le long terme. Ça paraît gros de faire un truc pareil.
Bah, c'est peut-être pour instaurer une peur.
Peut-être, peut-être. Mais apparemment, il avait peur lui-même. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, toujours est-il que cette prophétie du Ragnarok, donc elle mentionnait, comme j'ai dit, Surtr, le fils du feu et de la lumière, le champion des terres du sud, et visiblement, les Jotnar ne correspondent pas vraiment à cette description, les Jotnar n'étant pas faits de feu ou de lumière. Même si la prophétie avait été révélée des siècles à l'avance, les exilés avaient beau essayer de trouver qui pouvait être Surtr, ils n'y parvenaient pas. Et à vrai dire, d'ailleurs, au bout d'un moment, il a même été soupçonné par les hommes que les dieux avaient oublié. Que eux-mêmes avaient oublié, mais pas les dieux. Ce genre de choses, quoi.
Quand même, ok.
Pendant ce temps, au sud, le Dominion est toujours là. Et il est même plus que là, il est au top de sa puissance. À aucun moment, le Dominion n'a été aussi étendu ni aussi puissant. Ses frontières vont de la pointe est du continent jusque loin vers l'ouest. Il a des armées nombreuses, disciplinées, bien nourries, une population soumise à la fois en Azilia et en son panthéon. Cléon et Ninua ont été relégués au second plan et s'occupent maintenant de quelques terrains mineurs, disons, dans la mythologie du Dominion. Et Azilia, dans son palais céleste, règne sur le Dominion par l'intermédiaire du Kaelezor, grosso modo l'empereur. Et voilà que un jour, Azlia descend et déclare: on va envahir Menheim. Voilà. Personne l'avait vu venir celle-là. Hein. C'est littéralement. Écoute, c'est bon. Prends les armées, prends les légions, tu mets le V8 en route et on y va. Et le plus drôle, c'est que il a rien fait pour le préparer en fait.
YOLO.
Habituellement, ça allait être littéralement la plus grande expédition militaire de l'histoire de l'humanité. À aucun moment avant ou après l'histoire humaine, on ne verrait une telle armée marcher à la guerre. Les Spires et les Dwegom se poseraient des questions sérieuses sur la puissance des humains en les voyant. Voilà, c'est dire le niveau. Et là, donc, pas être débile, une armée pareille, ça se prépare. Il faut préparer la nourriture, préparer les soldes pour les soldats, préparer les bateaux, préparer les artisans, les
Ça
tous
leur manque
les
plein de
trucs.
missions, leur
Voilà.
ravitaillement.
C'est énorme comme travail. Enfin, c'est possible, hein, mais c'est énorme comme travail. Sauf
Ah,
que Asia, il a dit: non, vous prenez vos chaussures, vos pantalons, vos futales, votre pain et vous y allez.
et un pantalon marron parce que vous allez vous chier dessus.
C'est ça. C'est
Désolé.
ça. Et la petite chemise rouge aussi au passage pour pas qu'on vous voie saigner.
Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal ça.
Donc, enfin, c'était. Pour le coup, c'était totalement inattendu. Il a vraiment envoyé ses légions. Alors, bien sûr, il y a eu un petit peu de préparatifs quand même. Mais c'est là où il aurait fallu un an de préparatifs.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Il aurait fallu un an de préparatifs. Il aura fait: vous avez 2 mois.
Attends, je crois que la campagne de Bonaparte, c'était quasiment 18 mois de préparation, je suis pas sûr, mais pour la Russie.
Et on sait comment ça a fini.
Ouais, non, mais c'est ça. C'était...
Et la Russie n'avait pas de loup-garou.
Non, c'est sûr. Ah putain,
Mais bon,
ok.
d'accord.
Oh, tu sens que pourtant Azilia, c'est quand même un dieu assez tactique. Enfin,
Ouais, c'est ça.
il est en support normalement. Soit il avait toute confiance dans ses capacités logistiques, soit il s'est largement surestimé à ce moment-là.
Ouais, et en plus de ça, j'ai pas dit plus beau, il y allait personnellement. Il allait guider les
Ah
troupes
ouais,
lui-même.
en
Et il
première
a,
ligne.
en première ligne, il allait ramener en plus de
Putain.
ça une grande partie de son fameux panthéon, là, avec tous les anges, les saints et compagnie qu'il avait
Oh
créés. Il
punaise.
en a embarqué la majorité, puis il a fait: allez, on y va.
Allez Bibi, c'est parti.
Voilà.
Et il a vidé le Dominion ou il y en a qui sont quand même restés alors?
Ah, il a vidé le Dominion. Enfin, il l'a
Ok.
vidé. Pas exagéré non plus. Mais je crois qu'il y a sur quelque chose comme... Il y avait 13 légions pour tout le Dominion. Il en a embarqué 4 avec toute la logistique possible derrière. Je crois qu'il a embarqué quasiment les deux tiers de la flotte totale du Dominion, quoi. Voilà. Quand
Parce
tu
que...
vides... Quand tu vides l'empire le plus vaste de l'humanité d'un tiers de ses forces, voire même plus d'un tiers, hein, parce que bon, c'est 4 légions complètes. Alors, mais les légions sont jamais complètes en fait. Tu sais, elles sont
Oui.
toujours. T'as toujours des trous, des trucs comme ça,
Avec toujours de la
des parois
réserve,
de
des
recrutement,
apprentis, des
voilà.
machins.
Voilà. Non, 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 là, il a pris 4 légions complètes. Donc c'est plus que 30% de l'armée totale du Dominion. C'est énorme, 30% d'une armée totale. Et donc il a dit. On part au nord et on va conquérir tout ça. Et c'était ce que les dieux attendaient, Ragnarok, quand l'être de feu et de lumière est arrivé avec ses légions encagées dans du métal et accompagné de ses créatures ailées. Et à ce moment-là, normalement, Heimdall, le plus attentif des Vanir, aurait dû souffler dans sa corne. Réveiller tout Yggdrasil et les Erenyar auraient été prêts à affronter le Ragnarok d'homme à homme. Bien sûr, la quasi-totalité mourrait, mais les dieux, en tout cas la majorité des dieux, survivraient et ils pourraient continuer. Ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que Loki a tué Heimdall. Il a tué Heimdall. Et du coup, les Erenyar ne se sont jamais réveillés.
Flûte.
Bilan des courses, les dieux se sont battus comme ça. Les dieux se sont battus tout seuls avec leurs propres troupes, sans leurs troupes d'élite. Les tribus humaines étaient complètement dépassées, elles se sont souvent enfuies, même si quelques-unes sont venues les aider. Et donc, ça a été un combat apparemment d'anthologie. On n'a jamais vraiment su comment ça s'était passé. Apparemment, même Asliya lui-même était présent lors de la bataille d'Yggdrasil, en personne, sur le champ de bataille. Tout ce qu'on sait, on n'a pas vraiment de... On sait pas ce qui s'est passé après. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que quelques mois plus tard, Asliya est revenue avec quelques navires survivants. Il y a quelques pourcent... il y a un tout petit pourcentage des soldats qui avaient survécu.
C'est ok.
Quasiment plus de bateaux. Les Jotnar, donc les fameux géants, se sont jetés sur Monheim, qui était désormais sans dieu et sans protection. Les dieux étant morts. Et le Old Dominion se retrouvait du jour au lendemain. Enfin, le Dominion, enfin, le Old Dominion. Avec 30% de sa force totale de soldats
Militaire.
entraînés militaires qui avaient disparu, un grand nombre d'artisans, ravitaillement et compagnie en fumée, et les deux tiers de la flotte coulés.
Et au niveau Panthéon?
Et le Panthéon, bah, la quasi-totalité des anges qui avaient accompagné Asgard était mort.
Ah, oh, ok. Ça va, il me tape.
Autant te dire que ça a mal se passer.
Ça
Mais nous
va.
garderons tout ça pour le prochain épisode. Pour l'instant, je vais vous raconter un peu la vérité derrière le mythe.
Allons-y.
Donc là, c'est un sacré bordel. Les dieux sont morts, les Erenyar dorment encore dans les halls du Valhalla. Le Dominion vient de prendre sa plus grande défaite militaire et se précipite vers sa chute. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Asgard, le dieu pourtant tacticien, je veux dire le manipulateur par-dessus tout, s'est lancé là-dedans. C'est quoi le puits de la sagesse? C'est qui Loki? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? En fait, tout est un peu lié. Ce qui s'est passé, c'est que quand les Spires et les Tisseurs se sont mis à travailler ensemble, leur technologie s'est vraiment décuplée. La biomancie des spires et le lien de vie des tisseurs se sont mélangés parfaitement et leur ont offert des perspectives d'évolution assez incroyables. Surtout que quand ils ont battu les dragons, ils ont réussi à capturer un dragon ancien, Nidhogg, qu'ils ont enfermé au fond d'Yggdrasil. Et c'était une source de puissance et de connaissances inouïes, inespérées. C'était jamais arrivé avant ça. Ils ont donc fait beaucoup de progrès. Et ils ont utilisé Nidhogg pour se créer une espèce d'ordinateur qui pourrait calculer la probabilité de certains événements. Puis de plus en plus d'événements, au fur et à mesure que l'ordinateur était amélioré et qu'il gagnait en puissance. Et ils ont fini par être fascinés par cette machine, cette création qui pouvait prédire les probabilités, les possibilités du monde avec une telle précision. Et là-dessus, il y a eu un peu deux approches différentes. Odin, donc le maître de la faction des Spires, lui était totalement en affection, en amour avec cet ordinateur. Et il s'est presque perdu dedans, si on veut. Jusqu'à voir la fameuse arrivée d'Azilia. De son côté, Loki, lui, c'était le chef de la faction des Tisseurs. Il les dirigeait tous. Mais lui, il voyait cet ordinateur avec de plus en plus de méfiance. Pour lui, c'était surtout un problème, parce que si l'ordinateur devenait trop puissant, ou si on lui faisait trop confiance, on n'était plus vraiment maître de son destin, d'une part. Parce qu'après tout, je veux dire, est-ce que t'es vraiment libre si tu te contentes d'obéir à une machine qui te prédit l'avenir? Mais
Certes.
surtout, il y avait autre chose qui le gênait, qui était que, ok, tout ce que prédit le PC se réalise. Mais si demain le PC il prédit la fin du monde, la fin de tout, la fin de l'univers, qu'est-ce qu'on fait?
On pleure.
On pleure. Et en fait, il a fini par soupçonner que l'ordinateur était davantage capable de créer de créer l'avenir, si tu veux, ou d'influencer l'avenir qu'il n'était capable de le prédire. C'était moins qu'il était capable de te dire que quelque chose allait se passer, plutôt qu'il essayait de mettre toutes les conditions en place pour que ça se passe. Bilan des courses, Loki a voulu le détruire, ce PC. Et bien sûr, les exilés ont refusé. Il y a eu des débats, des discussions. Il n'en a pas voulu. Et donc Loki s'est dit, il faut que je le détruise. Parce que si je le détruis pas, un jour il va essayer de détruire le monde lui-même. Et on pourra plus l'arrêter. Donc il a été voir l'autre grande puissance de l'époque, la seule qu'il estimait capable de battre Yggdrasil, c'est-à-dire le Dominion. Et il a expliqué à Azilia la situation. Azilia, à ce moment-là, il n'était déjà pas très très stable mentalement. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'était pas stable mentalement? Il y a plusieurs théories qui sont pas forcément qui ne s'entrent à nulle part. Une théorie étant que comme il était une écharde de création et qu'il voyait les étoiles au-dessus de lui, il a voulu aller les rejoindre en fait, les retrouver. Et que l'humanité, qu'il voyait jusque-là comme un troupeau à mener et un bon moyen de gagner de la puissance, il a fini par les voir comme un poids. Et ça a affaibli son état mental. Plus de ça, bah, le Dominion étant gigantesque, il y avait des millions d'humains qui vivaient dedans, et ils avaient tous des désirs différents, des envies différentes. Et en fait, même avec son panthéon, il se retrouvait assailli de demandes de toutes sortes, et il n'était plus vraiment capable de les gérer. Alors quand Loki est venu lui parler d'un ordinateur magique qui serait capable de le renverser s'il le laissait en vie trop longtemps, bah le sang divin d'Azlia n'a fait qu'un tour et il y allait quoi. Et Loki s'est donc dit que bah, il allait leur faciliter la tâche. Et il s'est donc débarrassé de Heimdall, qui était. Alors on n'est pas trop sûr. C'était ou bien le responsable sécurité du Valhalla, ou bien c'était le système de défense lui-même. Le système de sécurité lui-même.
D'accord.
C'est l'un ou l'autre. Sachant que les deux, ça se trouve, ça peut aussi être les deux, hein, les deux ayant plus ou moins fusionné.
C'est vrai.
Il s'en est débarrassé. Il a créé quelques monstres de plus avec ses compétences pour aider le Dominion. Et il a regardé tout ça depuis les coulisses.
Ok. Excuse-moi.
Pour le coup, je peux pas trop le blâmer. C'est pas forcément le méchant dans l'histoire cette fois-ci.
Lucky, c'est le nom de mon chat, donc c'est pas le méchant.
Ah. Ah, c'est vrai que pour le coup, la mythologie tend quand même à le voir plutôt comme un antagoniste ou du moins une force qui peut être aussi intelligente que destructrice. Ah bah, là, pour le coup, je ne le juge pas trop.
C'est un personnage, déjà dans la mythologie nordique, Lucky est un personnage complexe. Donc.
Pas la raison qu'ils le soient pas dans Conquest.
Voilà, c'est ça. Ils utilisent la base pour en faire quelque chose d'encore plus complexe.
Ah bah c'est le fameux. Quelque part, ça s'appelle la patte Conquest. Hein. C'est, tu prends l'histoire de notre monde et t'y ajoutes un twist. En l'occurrence, qu'est-ce qui se serait passé si les Erenyar n'avaient pas participé à Ragnarok ?
Certes.
Mais toujours est-il que Azlia a quand même manqué de perdre, hein. C'est dire à quel point les dieux avaient atteint un taux de puissance incroyable. Et, bon, après, ils étaient aussi préparés, hein. Je veux dire, ils s'y attendaient à Ragnarok, hein, et Rhaenyra ou pas. Toujours est-il que, voilà, l'Old Dominion est affaibli, les dieux nordiques sont morts, les Rhaenyar sont encore endormis, Loki disparaît dans la nature, et Yggdrasil n'a pas été rasé. Les humains ont réussi à tuer les dieux et à détruire les niveaux supérieurs, mais ils n'ont pas réussi à pénétrer dans les niveaux inférieurs. Et ça, c'est une erreur qui va leur coûter très cher. Mais nous verrons ça une autre fois.
D'accord. Eh ben, quel passionnant épisode, encore une fois. Yggdrasil, c'est vraiment quelque chose de mystérieux, je trouve.
Ah, très. Mais un jour, on reviendra sur ce qui se passe dans Yggdrasil, en ce moment même, au moment où se déroule le jeu. Tu verras, c'est folklorique.
Il va falloir qu'on se dépêche de faire les épisodes, ça veut dire.
Oh bah. T'inquiète, j'en ai plein en stock.
Bon, bah écoute, un grand merci à toi pour cet épisode. Qu'est-ce que tu nous... C'est un petit teasing pour la prochaine fois ou tu sais pas encore ?
Ah, je sais tout à fait ce qui va se passer. La prochaine fois, nous allons quitter Mannheim et revenir dans le Dominion pour observer ensemble les conséquences de la croisade dans le Nord.
D'accord, donc on entame la chute du Dominion.
Oui, une chute qui va être spectaculaire.
D'accord. Eh ben, j'ai hâte d'y être.
Moi aussi.
Eh ben, écoutez, sur ce, un grand merci à vous pour nous avoir suivis jusque-là. C'était Be The Kid avec Lienard, qu'on remercie encore beaucoup. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et à vous les studios. Bye bye.
À la prochaine. Bye bye.